Également à Ouagadougou, Auprès Guépré, rédacteur en chef de la chaîne BF1, notre télé-partenaire au Burkina Faso. Alors merci à tous et je démarre justement avec vous, Aubin. Ce coup, dans le coup, a-t-il surpris les Burkinabés ou bien on le sentait un peu venir? Le colonel Damiba avait quand même commencé à effectuer des voyages à l'étranger, ce qui pouvait laisser présager qu'il avait consolidé son pouvoir, non?
Il faut dire que depuis un certain temps, on a vu quand même le lieutenant-colonel Paul Harry Sandaogo Damiba de plus en plus ôter son treillis militaire pour se mettre dans la peau du civil avec toutes ses sorties et ce travail diplomatique qui s'est fait, notamment la première sortie au Mali, ensuite le Niger et puis par la suite justement à l'Assemblée générale des Nations Unies avec cette déclaration. Progressivement, on s'est dit que la transition est en train de se consolider, que les institutions commencent à nouveau à fonctionner, que les partenaires ont commencé à faire confiance au Burkina Faso. C'était sans compter aussi avec les derniers événements, notamment Gaskindé, qui rappelle curieusement une attaque qui a été donc à la base de la chute aussi, il faut le noter, de Roch Marc-Christian Kabore. Donc effectivement, à partir de là, on a commencé à s'inquiéter, à avoir des doutes justement sur la suite de cette transition. Sans oublier qu'il faut reconnaître que ces dernières semaines, la cote de popularité du président Paul Harry Sandaogo Damiba avait considérablement baissé.
D'accord. Alors, Niagale, il est difficile, quoi qu'on dise, d'ignorer dans l'analyse ces attaques contre les symboles français, notamment l'ambassade de France, ainsi que les nombreux drapeaux russes constatés durant les manifestations soutenant le capitaine Traoré et ses hommes. Ces influences russes, françaises, est-ce qu'on réalité ou perception?
Non, les influences respectives des partenaires internationaux que vous venez de mentionner sont évidemment bien réelles, mais à mon avis, on surestime leurs influences. En réalité, on s'aperçoit que ce sont très largement des dynamiques avant tout locales qui ont conduit aux événements qui viennent de se produire. On a vu, cela a été indiqué, le rôle de la dégradation de ce contexte sécuritaire contre laquelle tous les acteurs semblent démunis. On a vu les rivalités intestines, non pas seulement au sein de l'armée elle-même, mais au sein du MPSR lui-même. Donc en effet, il y a effectivement eu une influence du contexte de dégradation très important de l'image de la France dans le pays, exploitée par des compétiteurs internationaux comme la Russie, mais je pense qu'il ne faut pas surévaluer leur influence. Ce qui est frappant, cela dit, dans le cadre de ces événements, c'est le fait que c'est en utilisant l'argument selon lequel la France avait en sous-main contribué à protéger le lieutenant-colonel Damiba, ce qui s'est révélé faux, que le capitaine Traoré et ses proches ont réussi à retourner le rapport de force. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une telle hostilité vis-à-vis de la France qu'il s'agit d'un argument de mobilisation de la population, de l'opinion publique immédiatement extrêmement fort qui peut être exploité assez facilement par la Russie ou les réseaux russes par ailleurs.
Mais en même temps, le Paris semble analyser tout cela sous l'angle d'une guerre de la désinformation dont Paris donc serait victime. Est-ce qu'il faut aller au-delà quand même?
Je pense que Paris aurait intérêt à justement aller au-delà de cette analyse. Comme je viens de l'indiquer, il y a très clairement une exploitation de ce rejet croissant auquel la France fait face aujourd'hui, non pas seulement au Burkina Faso, mais plus largement au Sahel et encore plus largement en Afrique de l'Ouest, mais le réduire à la capacité de déstabilisation informationnelle traditionnelle de la Russie, je pense que ce serait passé à côté d'un phénomène extrêmement profond qui s'explique par un certain nombre d'autres facteurs, à commencer par l'échec de l'intervention militaire française qui a été inapte à limiter l'expansion de la crise sécuritaire sahélienne, et également un certain nombre de déclarations dans le cadre d'une communication stratégique qui a pu paraître comme beaucoup trop paternaliste ou moralisatrice, et enfin un deux poids deux mesures que l'on reproche de plus en plus fréquemment à la puissance française.
D'accord. Alors Bagassi, vous avez eu un entretien exclusif avec le capitaine Traoré. Comment analysez-vous son discours, notamment ce qui concerne le partenariat sécuritaire dans la lutte contre les groupes armés djihadistes?
Oui, dans cet entretien, il est resté quand même sur les raisons qui les ont poussés à faire ce putsch, notamment le malaise qu'il y a au sein de l'armée burkinabé. Je ne suis pas sûr, et d'ailleurs il faut craindre que ce putsch ait contribué à aggraver ce malaise, c'est-à-dire que renforcer les divisions entre les différentes forces au Burkina. Maintenant, concernant le partenariat, il est resté quand même assez pragmatique, disant que pourquoi est-ce qu'on nous parle de la Russie? On est déjà partenaire avec la Russie. Il n'y a qu'à regarder les armes qu'on utilise, elles sont toutes russes. Donc, il n'y a pas de lieu de... Voilà, le Burkina est partenaire avec la France, avec la Russie, avec la Chine, avec tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il faut encore dire qu'il faut être partenaire avec quelqu'un? Même si ces hommes, un peu plus tôt, ont utilisé, parce que on peut imaginer qu'ils avaient des difficultés à parachever le putsch, et ils ont compris que l'opinion voulait quelque chose de ce genre, et on a dû envoyer rapidement des militaires à la télévision nationale pour dire oui, on veut faire le putsch, mais la France et Sandaogo Damiba veulent nous empêcher d'aller vers de nouveaux partenaires, et c'est ça qui a mobilisé la foule. Du coup, le putsch qui a commencé comme une affaire militaire, on peut le dire, s'est achevé comme une insurrection populaire, juste en utilisant cette carte russe et cette carte de partenariat qui en réalité ne veut rien dire.
D'accord. Alors, le capitaine Aubin Guépré, le capitaine a dit en rencontrant les secrétaires généraux des ministères que tout était prioritaire au Burkina. Justement, comment est-ce que le pays se relève-t-il de ces derniers événements, et est-ce qu'il bénéficie d'un soutien des différentes composantes de la société burkinabé au-delà de ceux qu'on a vus dans la rue?
Oui, il faut dire qu'il y a une forme d'adhésion populaire, ça il faut le signaler, au sein de la population, mais c'est une population burkinabé, une société burkinabé qui est aujourd'hui suffisamment fragilisée. Par l'aide de l'armée, effectivement, cette entité aujourd'hui est plus que jamais divisée entre officiers supérieurs et puis ces jeunes capitaines aujourd'hui. Il doit falloir travailler suffisamment donc à recoller les morceaux pour regarder dans la même direction, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Ça ne va pas être une mince affaire justement pour ces jeunes capitaines. Donc, un travail de réconciliation à faire au sein de l'armée. La preuve, jusqu'à présent, on sent au sein donc des jeunes capitaines qui ne sont pas encore suffisamment rassurés par rapport donc à ce qui se passe actuellement. On a l'impression que la situation n'est pas encore suffisamment stabilisée et que d'un moment à l'autre la situation peut changer. Donc on est encore sur le qui-vive à ce niveau. Au sein de la population également, il faut dire que c'est une population partagée, hein. Vous savez, il y a les partis politiques, bien évidemment pro-Rochma Christian Kabore, qui applaudissent justement parce qu'ils estiment que Damiba est venu mettre fin à leur pouvoir. Et puis il y avait aussi un autre groupe de partis politiques restés proches de Blaise Compaoré qui ont l'impression que Damiba était dans une posture de créer une réconciliation qui allait permettre justement à Blaise Compaoré de revenir au pays, qui aujourd'hui semble déçu parce qu'ils estiment que c'est un processus engagé qui est aujourd'hui en panne. Et puis vous avez aussi à côté cette société civile suffisamment marquée désormais, vous le savez, depuis 2014, il y a eu cette cette floraison de cette société civile éminemment politique, politisée, qui a aussi partagé entre justement les pro-Rochma Christian Kabore et les pro-Blaise Compaoré aujourd'hui, c'est selon donc ce positionnement. Et donc le débat fait rage. Et puis derrière aussi, c'est le débat pour le positionnement par rapport à qui doit gérer la transition dans la perspective justement des élections à venir.
D'accord, et on va revenir sur cette question politique, Bagassi, rapidement avant de passer la parole.
Je voulais juste ajouter que ce que sur ce que Aubin Guébré disait sur la division au sein de l'armée, vous savez, le capitaine Traoré fait partie de l'unité Cobra qui était à Kaya, qui est maintenant obligé d'abandonner ses positions pour se retrouver au palais présidentiel et sécuriser le président, qui est donc à Ouagadougou, pendant qu'on a à côté l'armée de l'air qui a soutenu Damiba, qui est aujourd'hui à Lomé. Nous avons les forces spéciales qui ont soutenu Damiba, qui sont à Ouaga aussi. Et vous avez bien sûr la question de l'âge et toute la hiérarchie militaire qui se dit pourquoi est-ce qu'on devrait se faire commander par un si jeune officier. Donc les tensions continuent et il faut craindre, il faut souhaiter qu'on puisse trouver une solution le plus rapidement possible.
Et alors, sur le plan régional, Niagale, comment est-ce que ce coup pourrait impacter la coopération sécuritaire dans la région, surtout avec G5 Sahel en léthargie? On a vu qu'en juillet, l'opération chorale entre les armées burkinabées et nigériennes avait quand même permis de neutraliser des dizaines de terroristes. Comment tout cela va... On va où avec tout cela maintenant?
Très rapidement, pour compléter tout ce qui vient d'être dit par mes collègues, je pense aussi que la décision du lieutenant-colonel Damiba de faire revenir l'ex-président Blaise Compaoré, alors qu'il avait été condamné par la justice, a également pesé dans l'équation actuelle. Pour répondre à votre question de la sécurité à l'échelle régionale, ces bilans en termes de neutralisation de djihadistes ne sont, à mon avis, absolument pas un indicateur suffisamment précis, tout d'abord, et surtout suffisamment large pour rendre compte de cette dégradation continue de la sécurité, notamment des populations civiles. Un véritable indicateur serait le nombre d'écoles qui peuvent être rouvertes, la façon dont les troupeaux peuvent de nouveau paître dans les pâturages, où les champs peuvent être cultivés, où les marchés rouverts. L'éradication de terroristes, tout d'abord, il est extrêmement difficile de vérifier les bilans. Ça, c'est la première des choses. Et d'autre part, on voit très bien que cette focalisation quantitative ne permet pas de répondre à la situation. Ce qui se passe du côté de Djibo montre très bien qu'on est face à des zones entières qui sont contrôlées. Et ça ne sera certainement pas par la neutralisation d'un grand nombre d'éléments de ces groupes que l'on parviendra à résoudre la question.
D'accord, là on va aller rapidement aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs. Archiduc Théodore Anyamena écrit que ce nouveau coup d'État est survenu parce que le précédent a trahi l'idéologie et aussi à cause de la visite à Ouagadougou de Blaise Compaoré. Le nouvel empereur du Burkina aura la lourde tâche de la sécurité et la remise du pouvoir aux civils. Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit que les attaques terroristes avaient atteint leur paroxysme sous la transition d'Amiba. C'est pourquoi son éviction du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas été mal perçue par le peuple burkinabé qui appelle à un partenariat militaire avec la Russie. Et puis Omar Wologem à Bamako écrit « Tant qu'il y aura la mauvaise gouvernance, il y aura toujours des coups d'État. Donc, je pense que c'est une leçon pour les dirigeants africains. » On va aller tout de suite en pause. Washington Forum revient après une courte pause.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir
retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. La délégation de la CEDEAO s'est rendue mardi au Burkina Faso et se dit satisfaite de sa rencontre avec les nouveaux dirigeants du pays qui promettent de respecter le calendrier déjà établi pour un retour à l'ordre constitutionnel. Une visite qui n'a toutefois pas été vue du bon œil par de nombreux partisans du nouveau pouvoir. Reportage à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Des manifestants hostiles à l'arrivée de cette délégation ont pris d'assaut les artères de la capitale burkinabé. Certains ont érigé des barricades dans différents endroits. D'autres s'étaient aussi dirigés vers l'aéroport. Un dispositif sécuritaire s'est déployé dans la zone pour maintenir le contrôle de la situation.
Nous sommes contre la délégation de la CEDEAO. C'est juste, vous-même vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Puisque quand on voit avec la CEDEAO, avec toutes ces organisations, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Burkina ? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Burkina ?
Rien.
Quand on regarde, nous sommes en guerre pendant 7 ans. La CEDEAO a plus fait quoi pour nous ?
Nous, on ne veut plus la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais donné un résultat à un problème.
Bon, ils sont là, c'est pour leurs intérêts et non pas l'intérêt général là de l'Afrique ni l'intérêt général de Burkina Faso. Depuis que nous sommes en crise, aucun pays donc, de la CEDEAO n'est venu avec des soldats. Au moins un soldat ou bien deux soldats pour dire à nous, Burkina Faso, on vous donne ça pour que vous aussi vous partez en guerre. Aucun pays n'est venu avec des vivres ou bien des fonds pour dire, ah voilà, vous êtes en crise, on va vous donner tel truc.
La délégation finalement arrivée à Ouagadougou n'est pas sortie de l'aéroport où elle devait rencontrer les nouvelles autorités, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du pays.
J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous déjà au mois de juillet. Un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina.
La délégation conduite par Suzy Carla Barbosa, la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, a quitté la capitale du Burkina dans la soirée. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Merci beaucoup et je rappelle nos invités avec moi ici en studio à Washington, Bagassi Koura, chef du service Bambara de la VOA, de notre studio à Paris, Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et à Ouagadougou, Aubin Guebré, rédacteur en chef de la chaîne BF1, notre télépartenaire au Burkina Faso. Et je reste avec vous, Aubin. Le capitaine Traoré a promis de respecter le délai de 24 mois maximum fixé par son prédécesseur pour rendre le pouvoir aux civils. Est-ce réaliste, selon vous?
Je ne saurais le dire, ce qui est sûr, c'est possible à mon avis d'inverser peut-être la tendance, toute la question elle est là. Les jeunes officiers ont estimé que les objectifs de départ, les stratégies de départ mises en place avec le président Damiba par rapport à la lutte contre le terrorisme n'ont pas été respectés et que celui qui vient de partir était plutôt désormais dans une dynamique de politique plutôt que des questions sécuritaires. On espère bien qu'ils le réussiront. C'est vrai que le capitaine l'a promis. Ils sauront faire en quelques mois ce qui n'a pas été fait en 8 mois. Et donc, si le front sécuritaire est quelque peu spécialisé, stabilisé, je pense que c'est possible justement de tenir ce délai de juillet 2024.
Mmh. Niagale, justement, dans ce contexte, le respect des délais pour la remise du pouvoir aux civils, est-ce que ça doit être une priorité, surtout que quand on parle de 40% du territoire qui est sous le contrôle des groupes armés?
Le respect des délais est important, mais la question qui va se poser aussi est celle de ceux qui sont habilités ou non à se présenter pour les prochains scrutins. Est-ce que les membres du MPSR vont être autorisés à concourir? C'est une question essentielle. Et par ailleurs, il est loin d'être certain que les populations, dont votre reportage montre très bien l'hostilité croissante vis-à-vis de la CEDEAO, je ne pense pas que la tenue des élections soit une priorité par rapport à ce retour nécessaire de la sécurité.
D'accord. Et Bagassi, justement, le capitaine Traoré a, dès sa prise du pouvoir, adopté un ton un peu mesuré dans ce sens, hein, mais quand on voit une partie de l'opinion qui semble réclamer une ligne plus dure et qui s'est même opposée à la venue de la délégation de la CEDEAO, comment peut-il naviguer un peu et concilier tout cela?
Oui, alors concernant les civils, le premier challenge qui va se poser, c'est dans quelques mois quand il y aura les assises, comme il a promis, pour choisir un président de la transition
civil
ou militaire, mais l'opinion qu'on voit dans la rue, personne ne veut entendre parler des civils, et ça va m'étonner qu'on puisse mettre un civil pour remplacer Traoré, ou alors ce sera peut-être quelqu'un qui va être un doublon avec un militaire comme Traoré, parce que l'opinion n'est pas en phase avec tout ce qui appelle à une transition civile comme on l'a souvent vu par le passé.
Et rapidement, une minute pour chacun avant de clôturer. Dites-moi, Robin, finalement, cette question sécuritaire, est-ce qu'elle ne risque pas d'être un facteur essentiel de l'instabilité politique à Ouagadougou et même dans le Sahel au-delà?
Tout à fait, ça reste la question essentielle. Il ne faut surtout pas se tromper d'objectif. Les jeunes capitaines savent qu'ils sont très attendus sur le sujet parce que c'est cela qui a justifié ce nouveau coup de force qui est venu donc freiner l'élan qui était déjà engagé. Et donc ils sont très attendus, il faut qu'ils aillent très vite. Et là, ça va être justement difficile, comme on l'a dit, parce que là déjà, le temps de prendre, de faire ces assises pour mettre en place de nouvelles institutions, vous voyez qu'on prendra encore plus de temps et du coup c'est le front sécuritaire qui prend énormément de coups parce que les attaques se poursuivent. Rien qu'hier dans mon propre village, les terroristes y ont fait un tour dans le centre sud, c'est dire que les terroristes continuent de prendre du terrain et il doit falloir très vite se remobiliser. D'accord. Sortir de la politique pour aller vers l'opérationnel sur le terrain, et c'est là tout le défi qui attend donc ces jeunes officiers.
Justement, Niagale, tout cela, les luttes de pouvoir et la lutte contre l'insécurité.
Bien sûr, c'est un enjeu majeur, mais est-ce que les fractures qui parcourent l'armée burkinabée pourront être pensées de manière à ce qu'elles retrouvent une opérationnalité que même les acteurs internationaux ne parviennent pas à démontrer dans la lutte contre ce phénomène djihadiste? Il y a malheureusement lieu d'en douter.
Oui, effectivement, sur cette note que je voudrais terminer, parce que ce coup d'État semble avoir aggravé la fracture entre l'État, ce qui va considérablement compliquer la lutte contre le terrorisme, parce que des forces qui se regardent en chien défaillance ne voient pas comment est-ce qu'elles voudraient que l'autre réussisse en termes de formation et d'équipement militaire. Donc il y aura cette rivalité qui va vraiment, et ça profite aux djihadistes, et c'est dommage pour le pays.
Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous mes invités. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.